Merci pour cette présentation et puis merci de me permettre de parler et donc de rendre compte de ce travail donc qui date déjà un petit peu et qui porte donc plus sur la représentation donc littéraire de l'animal, mais sur sa représentation en poésie, proprement en poésie. Donc, lorsqu'on considère la représentation de l'animal et des bêtes en littérature, on se focalise souvent sur le tournant, le début du XXe siècle, comme un moment où cette question va susciter un bouillonnement intellectuel pluridisciplinaire autour de ce que ça pouvait vouloir dire que d'habiter le monde en animal, et donc une réflexion commune qui va allier la philosophie de Heidegger, la biologie avec notamment, donc, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Jacob von Weckschul avec son idée d'environnement, et la poésie du poète de langue allemande, Rilke, avec, donc, qui introduit le concept d'ouvert et l'idée que l'animal voit l'ouvert. Donc bien souvent, en étude animale, on va se référer à Rilke et à la poésie de Rilke, des élégies de Duino, comme ce moment où, en littérature, et surtout donc en poésie, on va enfin considérer l'animal dans son apparition, où sa représentation va être vraiment revalorisée. Mais il me semble en tout cas que les études animales, et plus précisément les études animales francophones, privilégient dans leur étude maintenant contemporaine, beaucoup plus le récit, le roman, la narration, une narration donc qui s'étire sur plus de 10 pages, privilégie ces formes-là de littérature plus que la poésie, comme si la poésie était encore entachée, je ne sais pas, d'une tradition un peu anthropocentrique de représentation animale qui irait donc des fables de La Fontaine aux bestiaires symbolistes. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est rappeler que la poésie, au XXe siècle, a pu proposer une autre interprétation des bêtes, une autre représentation de l'apparition des bêtes dans le texte, qui prête plus d'attention à la singularité de leurs existences, de leurs apparences, sans porter de préjugés sur celles qui seraient représentables ou non représentables, dignes ou non d'intégrer le poème et de faire image. Et l'œuvre de Michaud, qui donc a parcouru tout le XXe siècle, puisqu'il commence à publier en 22 et qu'il disparaît en 1984, est particulière en ce qu'elle évolue et elle mûrit également dans une attention permanente à la diversité du vivant. Et il me semble qu'elle annonce aussi beaucoup des pensées qui vont foisonner au cours du XXe siècle. Tout premièrement, donc, il est en dialogue, même si c'est un dialogue lointain, avec la biologie de Portman, d'Adolphe Portman, telle qu'elle a été aussi réemployée par Merleau-Ponty, et plus tard, qu'il annonce également tout ce concept du devenir animal, du devenir autre chez Deleuze. Donc il annonce ça de loin, parce qu'il n'est pas en dialogue direct, concret, avec ses penseurs. Et plus particulièrement, si on se place dans la perspective de l'auteur lui-même, sa poésie introduit un dialogue entre la libération de soi, l'affirmation d'une singularité qui est irréductible aux normes sociales, aux discours d'autrui, aux conventions du langage, et la valorisation de la liberté et de la subjectivité des bêtes. Et des bêtes, donc c'est une expression consacrée maintenant de tout poil. Il ne porte pas seulement son attention sur le chien, le cheval, ces animaux nobles de la littérature, mais aussi beaucoup, donc il est très intéressé par les insectes. Par les poissons, par toute autre forme de vie animale qui peuple cette planète. Et cette valorisation de l'animal, de la vie animale, chez Michaud passe avant tout par la valorisation de ce qui fait l'animal, l'être animé, son mouvement, sa capacité à se déplacer dans le monde. Et ça a beaucoup intéressé Michaud parce qu'il a toujours entretenu une haine des catégorisations de toutes sortes et qu'il s'est efforcé de détruire tout ce qu'il appelait l'odieux compartimentage du monde, donc c'est-à-dire la distinction entre les espèces, mais également le compartimentage dans une identité humaine, physique. Il a toujours voulu se dégager de ce qu'il appelait sa forme bipède, c'est-à-dire son corps humain. Il vivait son corps d'homme comme un fardeau. Pour lui, la meilleure manière de se libérer de ce fardeau, c'était alors se retirer dans ce qu'il appelait ses propriétés ou son lointain intérieur, c'est-à-dire son imagination, pour donc reprendre certains de ses titres, pour réinventer le réel à partir de ce qu'il avait pu observer dans la nature et donc pour lutter contre tout ce qui était établi, certain et qui témoignait d'un orgueil humain. Il avait en outre compris que les discours littéraires et scientifiques ont fortement pesé sur les animaux, qui les ont enfermés dans des représentations anthropocentriques, qui ont réduit leurs existences au statut de produits de consommation, de concepts ou de symboles. Donc dans cette présentation, je souhaiterais proposer un très bref aperçu, un très bref panorama de ce qu'a pu produire Michaud et de ce que les animaux ont pu faire à la poésie de Michaud, qui est foisonnante, et donc de montrer comment le renouvellement de la représentation animale dans sa poésie peut aller de pair avec un geste d'individuation dans la création artistique. Cette communication va se diviser en deux temps un peu artificiels, puisque chez Michaud, la saisie d'une individualité et donc la nécessité de la laisser s'échapper ne font qu'un. J'aborderai d'abord les textes qui relèvent donc d'une échappée de la vie et de la forme animale et humaine hors des discours normatifs, scientifiques et littéraires, avant de me consacrer dans un second temps sur cette méthode de création qui est typiquement michaldienne, où le poète cherche à la fois à être saisi et à saisir le mouvement animal pour témoigner de tous les élans divergents qui font ce qu'il appelle son moi-foule, donc qui font imploser le sujet humain en beaucoup de ce qu'il appelle des départs, des déplacements, des dégagements hors de la forme humaine. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser à cette déconstruction par la poésie des discours savants et littéraires qui figent l'être et le sens. Parce que, avant tout, c'est bien à une déconstruction qu'il faut procéder pour Michaud, pour qui c'est d'abord le discours savant qui est le plus autoritaire et qui manifeste le plus cette prétention humaine à ordonner le monde et à l'arraisonner. Donc j'ai mis les textes auxquels je m'intéressais en citation. Donc là, on a d'abord un texte qui est issu du Barbare en Asie, donc de son voyage en Asie, qu'il publie en 1933. Ici, il se moque d'abord de cette manie qu'ont les Indiens, dans leur histoire naturelle, à faire des listes et à tout répertorier, à prétendre ranger tous les mouvements animaux au sein d'une nomenclature que la langue actualiserait, en fait. Donc je le cite. Son histoire naturelle, qui ne contient que peu de bonnes observations, ne laisse pas d'énumérer 18 manières de voler, 17 de tomber, 11 de remonter, 14 de courir et 53 de ramper. 18 manières verbales de voler naturellement, sans un croquis, sans un détail, mais 18 et pas 19, 18, et la question de voler a reçu tout apaisement. Dans le texte qui suit, qui est issu de Poteau d'Angle, donc un recueil bien plus tardif, il se moque de l'explication purement biologique et mécaniste du vivant et propose une alternative à la rigueur du savoir scientifique en rappelant que l'intériorité animale, si elle ne nous est pas accessible directement, n'en demeure pas moins réelle et il rappelle qu'elle peut ouvrir beaucoup d'appels à la rêverie et à la poésie. Donc, il parle ici de la couleuvre. La couleuvre qui s'enroule autour d'une souris, ce n'est pas pour jouer. C'est, après l'ingestion suivra. Pour répondre à la demande de son organisme en graisse, protides, sels minéraux assimilables, etc. Sans doute. Mais sûrement, la réponse que se donne à elle-même la couleuvre est plus belle, plus émouvante, plus digne, plus excitante, plus cérémonielle, plus sacrée peut-être, et assurément, plus couleuvre. Et on voit bien ici que c'est le mot juste couleuvre qui va condenser tout ce qui est censé représenter comme possible le fait d'être couleuvre, et que la poésie achoppe un petit peu à nommer ce que c'est que d'être couleuvre. Mais en tout cas, elle ouvre une porte de sens, un nouveau possible. Et donc on voit avec ces deux citations que Michaud se plaît à imiter les postures et les tournures du discours savant sur l'animal, sa prétention à l'objectivité, à l'exhaustivité, mais qu'il produit en son sein un décalage et une bizarrerie qui vont faire vaciller nos certitudes de lecteur et laisser place à une autre explication du monde possible. Il aime procéder par détournement pour provoquer un autre regard chez ses lecteurs. Il fera beaucoup de détournements, notamment avec le détournement de Maxime et de Dicton, qui sont un peu ce degré zéro de la science et du savoir, qui ont si souvent recours à l'image animale pour délivrer une sagesse populaire. Donc là, on a deux citations, une citation très précoce, qui fait partie de ses premières publications, où il prend le point de vue de l'enfant sur l'animal, et des citations de Tranches de savoir qui sont publiées dans Face au verrou en 1954, ici, qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc ce sont des séries d'aphorismes, de phrases très brèves, qui sont presque absurdes et qui ne semblent plus tellement écrites à notre usage d'homme. Ici, le plaisir du lecteur face à ces fragments poétiques un peu inhabituels, outre l'humour et la part de jeu littéraire qui s'y glisse, semble provenir d'un défilé de bêtes qui existe en fait absolument et de manière intransitive, c'est-à-dire qu'elles ne font pas signe vers autre chose, qu'elles ne servent à rien, qu'elles ne nous servent à rien, et qu'elles ne sont pas censées dévoiler un sens caché derrière lequel elles vont bien souvent disparaître, notamment dans les proverbes très connus, par exemple « une hirondelle ne fait pas le printemps » ou « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Ici, l'animal apparaît en tant que tel. Donc, par exemple, cette très belle allitération à la fin de « tout n'est pas dur chez le crocodile, les poumons sont spongieux et il rêve sur la rive », on a ici bien la suggestion d'une autre représentation du crocodile, qui n'est pas juste un animal cruel et qui est un dévoreur d'hommes. L'idée que le crocodile a peut-être lui aussi une intériorité et une capacité à rêver sur la rive. Il procède également à d'autres détournements, surtout un détournement du discours naturaliste et de la description naturaliste, en procédant par beaucoup d'inventions et de rapprochements un peu bizarres. Donc tout d'abord, ça va être des descriptions d'animaux réels dans ses récits de voyages réels, où il adopte la posture de l'explorateur ou du zoologue. Et donc, encore une fois, dans son Barbare en Asie, là je vais citer le Barbare en Asie, il va insérer au cœur de ce texte-là un bref corpus de description intitulé « Histoire naturelle ». Et on voit bien que, en associant à la fois une vision de naturaliste et une vision peut-être d'ethnologue, il déplace la focale et il dit qu'il regarde les hommes et les animaux de la même manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il répète très souvent. La citation que je fais n'appartient pas vraiment à l'histoire naturelle du barbare, mais elle est tout de même, elle appartient aux barbares en Asie. Et on va voir que cette description-là, que je vais citer, nous rend presque impossible la reconstitution mentale de la bête exotique qu'il décrit. Donc en fait, il décrit le poisson vache. Donc j'ai intégré une petite photo parce que la description ne nous rend pas du tout, cette image dans notre tête, et que toutes les comparaisons qu'il introduit en fait sont des comparaisons qui nous éloignent, qui éloignent la bête de notre représentation mentale. Donc ici, le poisson vache est nommé selon son appellation linnéenne latine, l'ostracium cornutum. Et il est comparé notamment à un veau ou à une allumette. Et personnellement, avant de chercher cette image sur Google Images, je n'avais pas cette représentation de la bête en tête. Donc il a une approche de la comparaison qui est très en poète, en fait, qui cherche à nous dépayser et à séparer tous les appariements conventionnels, toutes les comparaisons conventionnelles. Or, on sait que dans son Histoire naturelle, Buffon préconisait en fait la comparaison comme une méthode d'accès à la connaissance absolue qui permet d'établir les différences et les ressemblances qui existent entre les individus et de catégoriser selon les classes d'espèces, les classes d'animaux, les genres d'animaux, les espèces d'animaux qui constitueraient selon lui le vivant. Il faut, selon Buffon, que le naturaliste représente naïvement et nettement les choses, sans les changer, sans les charger, ni les diminuer, et sans y rien ajouter de son imagination. Il existe donc ici une ligne de faille entre la méthode du naturaliste, qui va comparer pour comparer ce qui peut être comparé pour expliquer le monde et pour le connaître, et la méthode du poète, qui compare, lui, pour introduire de l'inattendu et du nouveau, voire même du monstrueux. Dans ses écrits zoologiques ultérieurs, Michaud utilise en fait la comparaison comme un vrai outil de dépaysement, et sa langue va chercher à ranimer en nous, en tant que lecteurs, l'émerveillement et la fascination que nous éprouvons dès que nous sommes enfants devant le luxe des formes animales. Et si sa démarche peut être comparée à celle d'un biologiste ou d'un zoologue, je pense qu'il faut plus la rapprocher de celle d'Adolf Portmann, donc de ce zoologiste suisse qui propose dans les années 50 une étude de la morphologie animale aux antipodes des théories mécanistes ou darwinistes. Selon Portmann, les diverses formes que peut adopter le corps des bêtes ne relève pas d'une logique utilitariste d'adaptation à l'environnement en vue du camouflage ou de la reproduction des espèces, mais d'une fonction vitale d'apparition, de ce qu'il appelle l'auto-présentation. Pour Portmann, le corps d'animal est révélateur d'une certaine expressivité du vivant, d'une expressivité qui n'est ni subjective ni porteuse d'un sens pour quelqu'un, en direction de quelqu'un. Et cette expressivité nous perturbe donc, nous, dans notre conception traditionnelle que c'est que l'expression, et en particulier l'expression artistique. La pensée de Portman, on le sait, a aussi beaucoup influencé la philosophie de Merleau-Ponty, notamment dans ses cours au Collège de France, aussi dans les années 50. Il résume ainsi c'est son idée. La forme animale n'est pas la manifestation d'une finalité, mais plutôt d'une valeur existentielle de manifestation, de présentation. Et il me semble que Michaud anticipe cette pensée, en tout cas est sensible à toutes les gammes esthétiques du vivant, à ce luxe d'organes, de plumes, de pelages, de tailles, et que la nature animale devient pour lui comme un catalogue d'expressions dans lesquelles il puise pour imaginer des bêtes qui vont frôler le monstrueux. Donc dans une section qui est intitulée « Notes de zoologie », dans le recueil « La nuit remue », il va ainsi à nouveau détourner le discours naturaliste en inventant toute une foule de bêtes, une foule de noms, une foule de cris animaux, une foule de petites descriptions en fait comme ça complètement désordonnées et pas du tout hiérarchisées, qui détruisent un peu la rhétorique scientifique et qui en tout cas submergent le poème, qui ne distribue pas non plus de sens pour le lecteur. Il s'agit juste de regarder ces formes, de les imaginer, de les laisser vivre et de les laisser s'échapper. Et donc dans cette bousculade universelle des bêtes, comme il le dit, il me semble que la cavalcade des animaux imaginaires et celle des mots ne font plus qu'un, puisqu'à peine apparues, ces espèces s'échappent pour ne plus jamais revenir sous sa plume, à part peut-être la parpue qui est citée et la darolette ici qu'il va décrire, s'amuser à décrire par ailleurs. Ça, c'était toutes les formes d'échapper donc de l'animal et d'échapper hors du discours scientifique, surtout en faveur des bêtes. Mais Michaud va aussi chercher à s'échapper grâce aux bêtes, hors d'un corps unique, d'un corps humain unique. Il travaille beaucoup l'hybridation des corps. Il entremêle l'animé et l'inanimé et les règne entre eux. Et c'est quelque chose qui va devenir le sujet de nombreux récits de métamorphose ou de récits où le statut du narrateur est assez complexe. On ne sait pas si c'est un homme ou un animal, ou en tout cas il va peut-être se transformer en animal au cours du récit. Donc c'est une manière de s'échapper hors du corps de l'homme, de se démultiplier dans d'autres existantes qui ne s'immobilisent jamais dans une forme établie. Aucune des métamorphoses de Michaud ne s'immobilise. On ne termine jamais en cafard, on ne termine jamais en âne. On continue à se transformer. Donc on pourrait citer le très célèbre « Encore des changements » qui est très souvent cité dans ce cadre-là de la métamorphose. Mais comme tu le rappelais tout à l'heure, il y a aussi cette idée que dans des états de semi-conscience, comme le réveil ou la fièvre, Michaud va aimer inventer des animaux et peut-être vouloir se transformer dans ces bêtes-là. Donc il invente beaucoup ce qu'il appelle des animaux fantastiques dans ces moments de fièvre ou de réveil. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas avoir le temps de lire là, mais il aime se figurer dans d'autres corps. Et en fait, il existe chez lui le rêve d'un corps un peu ectoplasmique qui prendrait forme selon les envies, du sujet, et qui pourrait prendre autant de formes animales qu'il le plaît. Il dit qu'il a des envies de membres, et donc des envies certainement aussi d'ailes. Il y a cette citation-là du portrait des Meidosem où il invente en fait un peuple qui pourrait prendre toutes les formes qui lui plaisent. Et le texte se finit avec cette transformation en aile. Ce n'est même plus un organisme, la forme d'un organisme qu'ils prennent, mais la forme de ce membre moteur qui va permettre de s'échapper dans le ciel. Donc, je vous laisse le lire brièvement. Donc on peut lire dans ces nombreux récits d'hybridation un idéal d'expressivité corporelle où les formes diverses adoptées par l'enveloppe charnelle reflètent les mouvements de l'âme et où la morphologie est présentée comme un moyen d'individuation. C'est à partir de ce constat que nous voudrions développer donc le deuxième temps très brièvement de cette intervention afin de comprendre comment Michaud, grâce à son observation méticuleuse des vies animales et de cette écriture contre les conventions, les normes humaines, va proposer une manière de s'individuer. Donc dans ses rêves éveillés, Michaud voudrait se laisser traverser par des devenirs animaux, par l'échappée des bêtes, afin de s'échapper lui-même hors de sa forme humaine. Mais cette passivité rêveuse, donc du rêve, de l'imagination, va se muer en réel projet poétique à partir des années 50. Il va d'abord Par exemple, ici, avec ce poème très célèbre qui s'appelle « L'oiseau qui s'efface », tenté par la poésie de suivre la bête, en la laissant s'échapper. Donc, c'est un poème qui est tout fait de dialogue entre l'apparition et la disparition, donc proprement un poème sur le vol de l'oiseau, et qui ne va pas essayer, enfin, qui essaye de suivre par la parole l'envol, sans figer cette apparition-là animale dans un récit ou dans un sens global humain. Encore une fois, j'aurais pas le temps de la lire, mais je vous laisse apprécier le rythme, en tout cas mentalement, de ce poème-là qui rythme un peu aussi le vol, j'ai l'impression. Et donc finalement, à la fin de sa carrière, donc là ça commence dans les années 50 et ça sera plus tard avec Saisir, le recueil Saisir dans les années 1979, il va créer des recueils où il allie le dessin et la poésie en suggérant que ces dessins et ces tâches qu'il va dessiner, donc là c'est des mises en scène de ces recueils-là que je vous ai proposé, que des devenirs animaux, en fait, ou des mouvements animaux traversent son corps et se prolongent dans la tâche, dans le signe qu'il dessine sur la page, et que ces tâches-là seraient comme, pour lui comme un langage, en fait. Il rêve d'un nouvel langage idéographique, et on voit que beaucoup de formes... Donc ça, c'était des signes tirés de mouvements, publié en 1950, je crois, et plus tard, dans Saisir, il va revenir beaucoup à la figuration et à cette idée qu'en adoptant ce geste-là de la saisie des insectes, avec donc, des insectes qui ont tellement de membres qu'ils peuvent saisir beaucoup de choses dans leurs pattes, il va pouvoir peut-être mieux saisir le vivant et mieux saisir tous ces devenirs animaux qu'il traverse qui lui permettent une forme de libération. Voilà, je vais terminer là, parce que je pense que j'ai dépassé. Et donc la question surtout qui reste après ce bref parcours, c'est l'idée de savoir est-ce que la poésie peut dire l'animal sans l'emprisonner, en tout cas la littérature en sens plus large, sans l'emprisonner dans un symbolisme, dans des images, dans une valorisation particulière. Est-ce qu'elle se doit se terminer comme à la fin de la vie de Michaud, dans des simples signes, du dessin, de la suggestion vraiment très sans théorisation, sans représentation par le langage verbal? Comment est-ce qu'on dit l'animal en poésie? Est-ce qu'on doit passer par la narration ou pas? Donc c'est beaucoup de questions qui sont ouvertes en fait, et qui motivent la création et l'expérimentation. Voilà. Merci.